Bonjour et bienvenue dans l'entrepreneuriat c'est du sport, le premier podcast qui mêle sport et entrepreneuriat. Je m'appelle Eric Allard et avec mes invités, nous allons parler des liens qui existent entre ces deux mondes. Car entreprendre, c'est au sens large du terme, vouloir mener à bien un projet, que ce soit dans le sport ou dans le business. En parlant de sport, je ferai le parallèle avec ce que vivent au quotidien mes invités, qu'ils soient dirigeants, managers ou entrepreneurs. Nous évoquerons les valeurs communes à ces deux univers, comme par exemple l'esprit d'équipe, la confiance en soi, la résilience ou encore la vision à long terme nécessaire à l'accomplissement des objectifs et à l'entretien de la motivation. Et les expériences partagées par mes invités vous aideront sûrement dans l'atteinte de vos propres projets. Si l'épisode que vous allez écouter vous plaît, ou ce podcast en général, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme préférée, Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti pour une nouvelle rencontre dans l'entrepreneuriat, c'est du sport. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Clémence Falloué-Bréard. Bonjour Clémence.
Bonjour Eric.
Je te remercie d'avoir répondu à cette invitation. Tu es la fondatrice et CEO d'une agence de conférenciers qui s'appelle Simone & Nelson. C'est bien ça ?
Exactement, je suis l'heureuse fondatrice de Simone & Nelson, qui est, comme tu le dis à juste titre, une agence de conférenciers. Notre métier, c'est de trouver les orateurs inspirants qui interviendront sur les événements d'entreprise. Donc, on accompagne tous les organisateurs d'événements B2B à trouver le profil adéquat à leurs problématiques, leurs thématiques, leur audience et leur budget, bien sûr, aussi.
Alors, je suis ça parce que je suis moi-même conférencier. Il y a beaucoup de conférenciers sportifs. Ce podcast est également à faire le lien entre l'entreprise et le sport. Donc, mais il n'y a pas que des conférenciers sportifs, même si de plus en plus, ils interviennent en entreprise. Première question dans Simone & Nelson. Je sais pourquoi, moi, mais est-ce que tu peux expliquer d'où vient le nom ?
Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Pourquoi Simone & Nelson ? En fait, j'ai choisi deux personnalités inspirantes aux prises de parole historiques, que sont Simone Veil et Nelson Mandela, pour trouver le nom de l'agence, puisque je suis vraiment convaincue que l'intervention d'orateurs a un impact sur les audiences qui ont la chance de les rencontrer. Je parle souvent de moments extraordinaires, au sens vraiment littéral du terme. Et pour moi, qui mieux que Simone Veil et Nelson Mandela pour incarner ces parcours de vie et ces prises de parole extraordinaires. Donc j'ai choisi d'incarner l'agence par ces deux personnalités.
Et comment on en vient justement à créer une agence de conférenciers ? Est-ce que c'est parce que toi, un jour, tu as été aussi impacté par une conférence et tu t'es dit, j'aimerais bien apporter ça à d'autres ? Ou ça a été quoi le déclencheur pour te dire, bah, tiens, je veux faire ça ?
En fait, moi, j'ai une carrière dans le celebrity marketing avant de lancer Simone & Nelson. J'ai travaillé pendant plusieurs années chez Universal Music, la maison de disques, où je mettais en place des collaborations entre des marques et des artistes du catalogue Universal. Donc, ça veut dire quoi ? Mettre en place des collaborations, c'est organiser des concerts privés, organiser des rencontres de fans. Donc, à ce titre-là, j'ai pu mettre en place des concerts de Will.i.am, de Robin Thicke à l'époque, de Jessie J pour une marque pour laquelle je travaillais chez Universal. Et puis, à la suite de quoi, je suis rentrée en contact avec Brand and Celebrities parce que c'était pas encore l'époque de l'influence. Il y a une bonne dizaine d'années maintenant. Ça paraît fou de dire ça, mais les influenceurs tels qu'on les connaît aujourd'hui n'existaient pas. Et donc, je cherchais des relais, des leviers pour mieux faire connaître les concerts privés que j'organisais. Et je m'étais dit que je pouvais passer par les influenceurs. Et c'est comme ça que j'ai pris contact au départ avec Brand and Celebrities, qui était un des précurseurs sur le sujet. Et puis, de là, on commençait nos conversations. Finalement, plutôt que de recruter des influenceurs chez eux, j'ai été moi-même recrutée chez eux pour au départ lancer, en tout cas poursuivre l'activité d'égérie qu'ils avaient initiée. Et puis, petit à petit, au sein de ma carrière chez eux, j'ai repris leur agence de conférenciers en interne, donc en tant que manager de l'équipe. Et puis finalement, au moment du Covid, le fondateur, Quentin Bordage, m'a expliqué que ils allaient faire des choix stratégiques importants. Et donc, Brand & Celebrities a fait son virage vers Call Square à ce moment-là, en 2020. Et il a cherché un repreneur pour l'agence de conférenciers. Et moi, ça faisait très longtemps que j'avais envie d'entreprendre, mais j'osais pas trop me lancer, je ne savais pas trop sur quel sujet. Et en fait, je me suis dit que c'était une opportunité à saisir. Et pas un jour, j'ai regretté depuis que j'ai lancé Simone & Nelson et que donc j'ai repris l'activité préexistante et qui avait été bien menée par Quentin à l'époque chez Brand & Celebrities.
Et aujourd'hui, ça représente combien de conférenciers Simone & Nelson ?
Aujourd'hui, on travaille avec un portefeuille de plus de 1000 conférenciers et on organise environ 400 conférences à l'année.
Avec des domaines d'intervention variés, j'ai été voir sur le site, il y a des sportifs bien sûr, mais pas que, il y a des journalistes, des artistes, il y a des scientifiques, il y a de tout en fait.
C'est extrêmement large, tu as raison. Un point commun, c'est certainement la médiatisation et la notoriété. On est connu pour faire intervenir des profils eux-mêmes connus et reconnus du grand public. Donc, la majorité des demandes qu'on peut traiter est souvent de ce type. Mais comme tu le dis à juste titre, effectivement, on travaille avec des sportifs et c'est la ligne directrice de ton podcast. Mais on travaille aussi avec des hommes et des femmes politiques. On travaille avec des hommes et des femmes de médias, journalistes, animateurs sur les plus grandes chaînes télé ou les plus grandes radios de France. On travaille avec des philosophes. On travaille avec des aventuriers. On travaille avec des chefs. C'est vraiment extrêmement varié. Des astronautes. On fait un métier absolument dingue. Moi, ça me passionne et j'estime que j'ai une chance extraordinaire de pouvoir être au contact de tous ces profils au quotidien qui sont une véritable source d'inspiration.
C'est exactement ce que je ressens moi aussi avec ce podcast. J'en suis bientôt à une centaine d'épisodes et j'ai reçu des profils. Certes, il y a de l'entrepreneuriat, du sport, on va parler des deux, mais j'ai eu des profils totalement différents et des jeunes start-upers, des gens un peu plus connus. Henri Lecomte, par exemple, un sportif émérite qui aujourd'hui s'est reconverti, plein de choses comme ça. Et c'est vrai que c'est épanouissant parce que c'est tellement varié que c'est jamais la même chose en fait.
Exactement, en fait, et même deux sportifs, et même deux entraîneurs de sport co, et même deux sportifs d'un même sport auront deux manières de traiter leur sujet, auront deux histoires différentes à raconter, et auront deux manières de la raconter, donc en fait, c'est extrêmement enrichissant.
C'est vrai qu'aujourd'hui, les entraîneurs sportifs sont des conférenciers de choix parce qu'il y a une ultra-médiatisation de certains sports. Est-ce que toi, plus jeune, tu as fait du sport ? Est-ce que tu avais un sport de prédilection ? Ou peut-être un jour, tu t'es dit, tiens, pourquoi pas rêver à être une championne ?
Oui, alors c'est souvent considéré comme un art plus que comme un sport. Mais moi, j'ai fait beaucoup de ballet en étant jeune. J'ai commencé la danse classique à l'âge de 4 ans avec mon petit tutu rose et mes petits chaussons. Et puis en fait, j'ai pas réussi à décrocher avant mes 24 ans. Donc en fait, j'ai fait 20 ans de danse classique. Alors ce serait mentir que de dire que je l'ai fait à haut niveau. En revanche, je le faisais de manière intensive puisque je suis allée jusqu'à 10 heures de cours par semaine. C'était véritablement une passion. Je me levais danse classique, je mangeais danse classique, je dormais danse classique, tout tournait autour de la danse classique chez moi. À la maison, je dansais en permanence, mes parents n'en pouvaient plus. J'attendais au feu rouge, quand le piéton était rouge, je dansais sur le bord du trottoir. Heureusement que j'étais enfant, aujourd'hui on me prendrait pour une folle, évidemment je ne le fais plus. Mais ça a été... Ça a été la preuve d'un engagement très très fort pendant des années. Et c'est vrai que c'est pas souvent considéré comme un sport. Et j'ai commencé par te répondre par là parce qu'il n'y a pas de championnat de danse classique. Mais pour autant, pour moi, c'est une véritable prouesse physique. C'est le dépassement de soi est aussi très très présent en danse classique comme il peut l'être dans plein d'autres sports. En permanence, les danseurs repoussent les limites de leur corps et se font parfois très très mal pour pouvoir atteindre des niveaux de performance incroyables. Donc je le mettrais tout de même dans une catégorie de sport parce que y a une dimension physique qui est très forte dans cette activité dans laquelle j'ai pris énormément de plaisir.
C'est ça, tu as tout à fait raison et j'ai déjà eu cette discussion avec une amie qui faisait aussi de la danse où je la taquinais en lui disant c'est pas un sport. Oui, c'est pas un sport parce qu'il n'y a pas de championnat du monde de danse, c'est pas aux Jeux Olympiques. Mais quand tu regardes la dimension physique qu'il faut pour faire cette activité, quand tu me décris comment tu t'investissais dans la danse, bah, ça ressemble totalement à ce que peuvent décrire des sportifs qui arrivent sur des podiums olympiques en disant j'ai commencé très jeune, un Teddy Riner, des Tony Parker, il avait toujours un ballon dans la main et puis c'est tout pensé pour le basket, pour le judo, comme toi tu pensais tout pour la danse. C'est exactement le même principe en fait.
Entièrement aligné avec toi, et l'école de l'Opéra de Paris incarne bien ça, le système très hiérarchique pour monter les différents grades, pour devenir finalement, pour obtenir l'ultime rôle de danseur étoile, et qui est un véritable graal pour tous les danseurs de l'opéra, c'est un peu la compétition sous une autre forme. Il n'y a pas une médaille à la clé, il n'y a pas une coupe à remporter, mais il y a un rôle clé et majeur à obtenir. Et voilà, ils commencent très très tôt, ils s'astreignent des rythmes très denses à l'école de l'opéra. C'est un sport-étude, c'est considéré comme un sport-étude avec une énorme pratique de la danse, un régime alimentaire très strict dès l'enfance. Donc en fait, en beaucoup de points, c'est vraiment comparable à un sport, même si ça ne rentre pas dans cette catégorie aujourd'hui.
Mais ça n'enlève rien à la dimension extraordinaire de ce que peuvent faire ces danseurs et danseuses étoiles ou pas, parce qu'il n'y a pas que les danseurs étoiles. On a un champion olympique du 100 mètres, un champion olympique de judo, mais s'il est tout seul à faire son 100 mètres, ça a beaucoup moins d'éclat que d'avoir battu tous les autres, et c'est exactement pareil dans un ballet. J'ai jamais fait de ballet, mais je suppose que c'est ça. Tu peux pas être danseur étoile si à côté de toi, t'as personne, quoi.
Exactement, le danseur étoile ne peut pas briller s'il n'y a pas le corps de ballet qui permet derrière. Donc le corps de ballet, c'est l'ensemble des danseurs qui vont faire les danses collectives. Et il y a des scènes absolument magnifiques dans les grands ballets classiques avec ces nombreuses danseuses en tutu qui réalisent des chorégraphies vraiment très visuelles et répétées, et qui donnent des images vraiment incroyables. Et donc certes, le danseur étoile, c'est l'équivalent de Teddy Riner, mais en fait, ce qui est beau dans le sport comme dans la danse, c'est tout le championnat, et donc c'est tout le corps de ballet, c'est l'ensemble des danseurs qui vont raconter l'histoire, pour ce qui est de la danse évidemment, mais et qui vont ensemble créer une unité, parce que pour faire une comparaison avec une autre dimension du sport, on peut aussi croire que la danse classique en particulier pourrait être considérée comme un sport ou un art individuel ou individualiste, alors qu'en fait c'est pas du tout le cas. Il y a une très forte écoute du langage non verbal, il y a une observation permanente de ce que font les autres autour de nous pour savoir si on est raccord. C'est pas le tout d'être à juste temps sur la musique quand on est sur le devant de la scène. Si tout le reste du groupe est à contre-temps, mais ensemble, en fait, c'est nous qui allons sonner faux, c'est nous qui allons vraiment paraître étrange par rapport au groupe. Donc en fait, il y a vraiment un esprit de groupe et un esprit de corps qui est important dans la danse, comme ça peut être le cas dans certains sports. Alors, je ne vais pas aller à comparer jusqu'à un sport collectif, mais en tout cas, je pense que c'est important de casser le cliché du danseur ou de la danseuse qui est seul et isolé, individuel, voire égoïste, alors qu'en fait, il y a vraiment une unité, et pour que le spectacle soit beau, il faut qu'il y ait un ensemble, et il faut que ce soit cohérent, et il ne faut pas qu'il soit seul, très fort, très performant sur le devant de la scène, sans être à l'écoute du reste de son équipe, en fait.
Bah, tu l'as bien résumé, c'est un art d'équipe, comme peut l'être un tennisman qui est tout seul sur le terrain, mais qui, à très haut niveau, s'il n'a pas une équipe autour de lui, certes, ils ne sont pas avec lui sur le terrain, mais ils sont autour, et sans cette équipe, il ne peut rien faire, en fait.
Exactement, ça, c'est évident.
Et est-ce que, du coup, tu as des danseurs dans tes conférenciers, ou des ex-danseurs ?
Oui, on travaille avec François Allu, qui est un ancien danseur étoile de l'Opéra de Paris, qui a un profil assez atypique, parce que une fois qu'on décroche ce ticket du Graal, en général, on reste un certain nombre d'années au sein de la maison, et puis on participe aux programmations des différents ballets. Et en fait, François a fait le choix de s'émanciper une fois qu'il avait atteint ce niveau ultime de l'Opéra de Paris. Il est danseur incontesté, mais voilà, il a ce profil vraiment atypique, inhabituel, et en se libérant aussi de tout ce ce conservatisme, parce qu'il y a de ça aussi dans cette discipline, et donc à être capable de remplir des salles de spectacle comme des Olympias, etc. Donc voilà, François, on est très fiers, et moi particulièrement, j'ai une sensibilité à ce sujet, d'avoir pu le référencer au sein de l'agence et de pouvoir le faire intervenir. Donc, et c'est aujourd'hui évidemment une des personnalités qui m'inspire.
Et justement, comment on choisit ces conférenciers ? Est-ce que des fois, tu es devant ta télé et tu vois une émission, tu vois quelqu'un qui parle, tu te dis, lui, il ferait un super conférencier, j'ai envie de l'avoir parce qu'il représente quelque chose ? Ou est-ce que bah, doit y avoir le bouche à oreille, je suppose, ou des gens qui vous contactent spontanément ? Comment on a ce premier choix et comment on valide un conférencier chez Simon & Nelson ?
Ouais, elle est géniale cette question, parce que effectivement, je reçois 15 à 20 demandes de conférenciers par semaine pour rejoindre l'agence. J'en refuse en toute franchise 95 à 99%. Loin de moi une volonté d'arrogance dans cette décision. Il faut vraiment que les profils répondent à un certain nombre de critères pour pouvoir être référencés chez nous, parce qu'en fait, ben, je pourrais référencer tous ces profils qui me contactent, mais en fait, derrière, on ne travaillerait jamais ensemble. Et donc, ça a un intérêt pour personne. Ça créerait de la frustration aussi bien pour eux que pour nous, de se dire, ben mince, on sait ce qu'ils font, on sait de quoi ils parlent, mais en revanche, ça fait 2 ans et demi, 3 ans, 5 ans qu'on n'a jamais travaillé avec eux. Et en fait, c'est vraiment dans l'intérêt de personne. Donc, oui, je suis en veille en permanence sur ce qui se passe, sur les orateurs. Donc, je peux écouter des émissions de télé en particulier. Alors, pas beaucoup, je suis pas très souvent devant la télé, mais il y a quelques émissions que je regarde et où je détecte s'il y a des profils qui ont un intérêt, en tout cas la capacité à être orateur pour des événements d'entreprise. Ça peut être un point. Le deuxième point, donc il faut une qualité d'expression, ça c'est un premier critère. Il faut que l'intervenant soit capable de s'exprimer sur un sujet qui est important pour lui et qui a de la valeur pour lui, parce qu'il faut qu'il soit légitime évidemment sur son sujet. Deuxième point, il faut qu'il parle d'un sujet qui intéresse les entreprises. Il y a des thématiques qui sont passionnantes, mais qui ne correspondent pas aux besoins des entreprises aujourd'hui. Et donc, le plus grand conférencier international sur la mythologie grecque, par exemple, il doit être passionnant et très intéressant, mais en revanche, aucune des entreprises avec lesquelles je travaille ne sera intéressée par son sujet. Et donc, ça ne servirait à rien de pouvoir le référencer chez nous. Donc, on fait toujours en sorte que les conférenciers qu'on référence répondent à des besoins de nos clients. Quelles sont les thématiques phares pour ça ? La première, il y a des tendances sur le choix des thématiques. Il y a à la fois des fils rouges et à la fois des tendances. Les tendances actuelles, et je vais rien t'apprendre, hein, tournent autour des politiques RSE, des stratégies RSE des entreprises, la responsabilité sociale, sociétale des entreprises, que ce soit sur la gouvernance, le bien-être des équipes au travail, l'inclusion, la diversité et évidemment l'écologie sont autant d'aspects sur lesquels aujourd'hui ils font intervenir des profils. Ça, c'est un premier thème qui est vraiment tendance depuis la création de Simon & Nelson en 2020. Un autre thème qui est très tendance et qui a émergé en 2023, en tout cas, je devrais plutôt dire qui est revenu en 2023 parce qu'il a eu ses heures de gloire il y a quelques années, c'est un peu disparu et puis c'est revenu l'année dernière, c'est l'intelligence artificielle avec l'émergence de ChatGPT. On l'avait pas forcément vu revenir en 2022 et puis en fait en 2023 ça a explosé parce que tout le monde s'est inquiété de ces outils d'intelligence artificielle qui étaient désormais à disposition du grand public. Et donc, bah, il faut trouver des experts qui soient capables de rassurer, d'expliquer, de vulgariser et en même temps d'être complètement réaliste sur la situation et aussi les perspectives et prospectives du domaine. Donc ça, c'est un autre sujet qui est beaucoup revenu l'année dernière et qui est encore très, très présent aujourd'hui. Et puis après, on a les thèmes fil rouge. Et là, ça va rejoindre le sport parce que le collectif, la cohésion d'équipe, le leadership, le management, le dépassement de soi, la motivation sont autant de thèmes qui sont vraiment très bien incarnés par les sportifs et qui et sur lesquels on est sollicité en permanence parce que en fait il n'y a pas de secret. Une équipe dans l'entreprise, c'est comme sur une équipe sur le terrain. On a des objectifs différents, mais on a des profils différents, des profils variés, plus ou moins forts sur certains domaines. Et il faut qu'on arrive à composer ensemble pour atteindre un but commun, idéalement en se faisant tous plaisir. Donc en fait, les expériences des sportifs sont extrêmement riches pour les partages en entreprise.
Et justement, parmi tous tes conférenciers sportifs, est-ce qu'il y en a un ou une qui t'a vraiment inspiré? Alors, soit parce qu'il est dans ton équipe, chez Simone et Nelson, ou peut-être que tu as vu la conférence d'un autre sportif, tu aimerais bien la voir chez toi, il n'y est pas pour l'instant. Mais est-ce qu'il y a vraiment un sportif ou une sportive qui t'a dit « ouais », d'une part par ce qu'il a fait sur le terrain en termes de résultats, mais également parce qu'il dégage en dehors de ça ou ce qu'il a pu faire. T'as un nom ou plusieurs noms à nous donner ?
Bien sûr. Je pense immédiatement à Tony Parker. Évidemment, son parcours sportif est absolument incroyable. Il fait partie des meilleurs sportifs internationaux aujourd'hui. Et bien qu'il soit français, il a performé en NBA comme peu de basketteurs l'ont fait, en fait. Et pour finir au Hall of Fame, pour avoir sa cérémonie au Hall of Fame encore récemment. Voilà. Pourtant, je suis pas du tout une fan de basket et je serais incapable de lister ses titres. Mais son parcours de sportif pousse vraiment au respect et je l'admire beaucoup pour ça. Et je l'admire d'autant plus quand, en fait, je l'entends faire ses conférences et quand j'assiste à ses conférences. Et en fait, il explique avec beaucoup d'humilité qu'il n'était pas du tout prédestiné à être ce sportif à succès qu'on connaît aujourd'hui. Qu'en fait, quand il était petit... tout le monde lui disait que ce serait pas lui de toute façon et que il y en avait bien des meilleurs autour de lui, mais qu'en fait lui il avait la niaque, il lâchait rien et il a jamais rien lâché et qu'en fait il était avant tout le monde sur les terrains et que en fait il bossait et que ça a fini par payer. Et en fait quand j'entends ça, je me dis que notre destin nous appartient, enfin que à chacun à notre niveau, en fait, on a les moyens de faire en sorte de changer la destinée qu'on nous dessine à certains moments de notre vie et que on peut choisir l'orientation qu'on lui donne par les efforts qu'on va mettre sur un sujet ou sur un autre. Donc ça c'est vraiment un des points que je trouve. Sur lesquels j'admire vraiment Tony parce qu'en fait on sent que il a lui-même pris son destin en main et qu'il a fait en sorte de changer les choses et changer la suite de la carrière qu'on lui avait imaginée, quoi. Donc ça c'est le premier point pour lequel je l'admire beaucoup. Le deuxième point pour lequel je l'admire beaucoup, c'est qu'en fait il a une orientation business. Il est super smart. Je trouve pas le bon mot en français pour être vraiment dans cet état d'esprit de. Il est juste en fait. Il comprend les enjeux d'une entreprise. En fait, il a le fond d'un entrepreneur. Aujourd'hui, il est entrepreneur et investisseur. Au-delà d'être ex-champion international de basket, et je vous apprends rien avec sa présence sur Qui veut être mon associé sur M6 là depuis le début de l'année. Et en fait, il a su écouter pour pouvoir se mettre dans cette disposition, parce que là aussi, dans ses conférences, il raconte ou quand il répond aux questions, il n'hésite pas à dire que donc il a côtoyé les plus grands. Quand on imagine qu'il a lui-même reçu des conseils de Michael Jordan, par exemple, on trouve ça. Et quand il nous raconte ces anecdotes, ça nous permet on rentre un peu dans le secret des dieux quelque part, quoi. Enfin, et c'est ça aussi que j'adore dans les conférences et que les participants adorent entendre. Mais en tout cas, au cours de sa carrière de sportif, pour revenir au sujet, et en l'occurrence, que ce soit Michael Jordan ou d'autres, lui ont toujours conseillé d'être à l'affût des contacts business, en lui expliquant que pendant sa carrière, c'est là où il a le plus d'attraction. c'est là où les gens voudront plus lui parler. Et qu'une fois qu'il sera à la retraite de son sport, eh ben, il sera beaucoup moins attirant. Et donc, il générera beaucoup moins de contacts intéressants pour le business. Et donc, il fallait surtout pas les sous-estimer au moment où on était dans le sport. Même si on a envie de se consacrer à 2000% au sport, il faut laisser une petite place à ces prises de contacts qui pourront avoir du sens sur le plus long terme. Et chose qu'il a faite. Évidemment, je vous retranscris ce qu'il dit, il le dirait 10 000 fois mieux que moi. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'en retiens quand j'ai des échanges avec lui ou quand je le vois en conférence. Et en fait, je trouve que ça lui a très bien réussi parce que la reconversion du sportif est quand même un sujet qui est pas du tout simple. Parce qu'on voit souvent les sportifs, on le disait tout à l'heure, qui sont les champions olympiques, qui sont les médaillés d'or. Mais derrière eux, il y a des dizaines, des centaines, des milliers de sportifs qui galèrent, ne serait-ce qu'à toucher un salaire, qui doivent trouver des sponsors pour pouvoir mener à bien leur discipline, qui doivent mêler un job en parallèle dans leur carrière de sportif pour pouvoir assumer leur passion et leur sport. Et du coup, sur le profil de Tony et sur cet aspect vraiment très orienté business, je trouve qu'il a été très fort parce que sa reconversion s'est passée de manière assez fluide, en fait. Et aujourd'hui, il mène un tas d'entreprise et on voit qu'il adore ça, en fait. Donc voilà, ça c'est vraiment le deuxième point qui pousse mon admiration, c'est que non seulement ça a été un excellent sportif mais à force d'acharnement, mais en plus c'est quelqu'un qui a su se reconvertir, qui est aujourd'hui un entrepreneur brillant, qui a plein d'idées en permanence et qui continue de en plus de chercher des nouvelles pépites dans lesquelles investir pour aussi aider les entrepreneurs à se développer. Donc, c'est deux aspects qui sont très forts. Et puis, pour rien enlever à tout ça, c'est quelqu'un de vraiment hyper sympathique et très accessible. Et ça a aussi de la valeur parce que on en côtoie tous, hein, des profils qui peuvent être sur une autre planète. Et pourtant, on peut dire que lui, il a quasiment touché les étoiles vu le palmarès qu'il a. Et voilà, et je trouve que c'est simple d'avoir une conversation avec lui. Et il fait partie de ces conférenciers sportifs qui m'inspire vraiment beaucoup.
Tu as raison, c'est vrai que tout ce que j'ai pu lire sur lui va dans le sens de ce que tu viens de dire, hein, à la fois dans l'investissement qu'il a eu à sa carrière, hein, ses premières années aux Spurs n'ont pas été très faciles, hein, il le raconte très très bien. Il a assez vite, pour moi, eu cet esprit entrepreneurial même dans sa carrière sportive. Et aujourd'hui, il aurait pu se reposer sur ses lauriers. Hein, il a gagné assez d'argent en étant basketteur pour se dire « je ne fais plus rien ». Et en fait, non, il a envie encore d'apprendre. Il va à 100 à l'heure, il est très accessible. Je l'ai regardé aussi dans Qui veut être mon associé. Et c'est extraordinaire. Et c'est une belle réussite, à la fois sportive et puis aujourd'hui entrepreneuriale. Et d'ailleurs, tu le disais quand tu le décrivais, les gens qui viennent aux conférences ont envie de voir un peu l'envers du décor, de découvrir ce qu'on ne voit pas. Tu penses que c'est la raison première des entreprises quand ils choisissent un conférencier, au moins un conférencier médiatique? Tu parlais de la RSE, de l'IA, c'est quelque chose d'un peu différent, mais sur ces conférenciers un petit peu médiatiques, qu'ils soient journalistes, musiciens, sportifs, etc., ce qu'ils veulent avant tout, c'est découvrir un peu ce qui se passe derrière le rideau et puis ressentir ce qu'on peut ressentir un Tony Parker quand il marque un panier pour être champion de NBA, un maître de violon ou un danseur étoile quand il est tout seul sur scène devant des milliers de spectateurs. C'est ça qui les fait vibrer quand ils prennent un conférencier chez toi?
Il y a deux niveaux de réponse, je pense, à cette question. Les participants, c'est sûr qu'ils recherchent ça. J'appelle souvent ça les anecdotes de vestiaire, mais quand Marc Lièvremont raconte comment ça s'est passé dans le vestiaire avant de rentrer sur le terrain pour le match de finale de Coupe du Monde contre la Nouvelle-Zélande, oui, en fait, tout le monde a envie de savoir ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, ce qu'on ne connaît pas, en fait, et de rentrer dans cet environnement un peu secret et de partager ce type de moment avec les intervenants. C'est sûr que les participants ont envie de ça. Et souvent, les messages vont passer par ces illustrations. Parce que c'est bien beau de dire la cohésion, c'est le fait que divers types de profils arrivent à travailler ensemble. Ouais, super. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit en fait. Mais concrètement, très concrètement, comment comment ça transpire sur un terrain, comment ça transpire dans un vestiaire, cette cohésion, et qu'est-ce que ça signifie? Et donc, c'est quand on l'illustre par des faits qui, en plus, résonne d'un point de vue médiatique, où là on comprend toute la dimension du sujet et on se souvient parce que on a l'anecdote qui est derrière, et en plus on se sent privilégié parce qu'on a accès à cette anecdote. Donc et c'est ce qui va faire qu'on garde le souvenir, et que le soir en rentrant à la maison, on va avoir envie d'en parler à son mari, à sa femme, à ses enfants, qu'une semaine plus tard, en voyant ses potes, on va leur dire oh, tu sais pas quoi, la semaine dernière j'ai vu un tel en conférence, incroyable, il nous a raconté ça, encore plus il y a une affinité forte avec le sport en l'occurrence, quand on parle d'un sportif. Donc ça c'est sûr que, je sais pas si c'est une attente des participants, mais en tout cas c'est assurément quelque chose qu'ils apprécient. En revanche, les décisionnaires, ils viennent pas pour ça. Ils viennent pas pour chercher les anecdotes. Les décisionnaires, ils viennent pour apporter de la hauteur, permettre d'avoir accès à un message, à un discours qui est différent de ceux qui peuvent porter, ou d'ouvrir le champ des possibles sur un sujet, d'apporter de la pédagogie. On parlait des sujets un peu plus techniques tout à l'heure. En fait, ils viennent chercher quelqu'un qui est légitime sur un sujet et qui va pouvoir en parler. En revanche, ça marche mieux quand on raconte les anecdotes qui vont avec, pour que l'audience s'en souvienne.
Et tu as cité Marc Lévremont, qui a été un très bon rugbyman avant d'être un très bon entraîneur. Il y a du Claude Onesta, il y a des Fabien Galtier qui font des conférences. Est-ce que tu as vu aussi des managers d'entreprises qui n'ont pas été sportifs, qui font des conférences? Est-ce que dans ce que disent ces entraîneurs, ces coachs, tu penses qu'il y en a certains qui pourraient être très, très bons dans une entreprise classique? Parce que les méthodes de management qu'ils mettent sur le terrain, en gestion de l'ego, gestion du stress, des objectifs, de la motivation, c'est des choses qui ressemblent vraiment à ce qu'on trouve dans les entreprises, dans ce que tu peux écouter de conférenciers qui sont managers d'entreprise et pas sportifs.
Oui, alors il y a les deux aspects. Parmi les managers d'entreprise qui peuvent faire des conférences, mais toujours en gardant un lien avec le sport, qui est un peu notre ligne directrice ici, je pense à Jacques Rivoal, qui du coup a géré cette Coupe du Monde de rugby l'année dernière, mais qui avant ça a travaillé dans le secteur de la construction automobile, en particulier chez Volkswagen et au préalable chez Renault, et qui notamment a dû gérer des crises assez importantes, notamment chez Volkswagen. Et donc, c'est passionnant d'avoir aussi ce type d'intervention en entreprise, parce que à une autre dimension, on peut se retrouver confronté à une gestion de crise à son poste et se dire, ah bah punaise, tout de même, quand il était managing director de Volkswagen et qu'il a dû faire face à la crise des sondes, des fameuses sondes qui indiquaient le niveau d'émissions, qui était a priori pas tout à fait juste. Comment on fait pour traverser une crise comme celle-ci, et quelles sont les clés pour s'en sortir et pour y faire face? Et donc c'est assez passionnant d'avoir un retour d'expérience comme le sien, d'autant plus qu'aujourd'hui il a une carte sportive en plus à son palmarès, en ayant géré l'organisation de la Coupe du Monde de rugby l'année dernière en France. Donc ça c'est pour répondre à la question du côté chef d'entreprise. Je l'ai cité lui, mais en fait il y en a plein d'autres qui pourraient, qui ont du sens et qui interviennent aujourd'hui. Les animateurs de Qui veut être mon associé, au-delà de Tony Parker, sont aussi très inspirants, et en plus, comme ils ont cette dimension médiatique, ils sont les clients apprécient leur profil parce qu'en fait on les identifie tout de suite, mais voilà, ça peut aller au-delà de ça, évidemment. Et puis du côté des sportifs, tu l'as cité, mais moi je trouve que Claude Onesta ferait un excellent manager, tout simplement parce qu'il a été un excellent manager, même si on n'appelle pas ça manager dans le sport, mais c'est tout de même un profil qui a mis en place un management participatif dans son équipe et du coup pour lequel on a plein de choses à apprendre dans l'entreprise. Et c'est génial quand on en discute avec lui parce que il t'explique que c'est pas parce que le management est participatif que c'est la zizanie et que tout le monde il vient avec son grain de sel et que c'est le foutoir derrière pour savoir ce qui se passe. Management participatif, ça veut dire que c'est collectif, tout le monde a son avis à donner sur un certain nombre de décisions. En revanche, lui reste le manager et c'est lui qui tranche derrière et qui assume les décisions qui sont prises, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient pas bonnes. Mais en revanche, en consultant tout le monde, en prenant des avis derrière, ça permet aussi d'avoir une mobilisation de l'équipe, une adhésion aux décisions qui sont prises et de pouvoir aussi élargir le champ des possibles en termes d'idées qui peuvent être soulevées. Donc moi, je trouve que c'est un profil qui pourrait être vraiment un manager performant en entreprise. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard aujourd'hui s'il a été retenu pour travailler sur la performance du sport français lors des prochains JO de Paris, puisque c'est sa mission d'optimiser le nombre de médailles qu'on pourra décrocher avec l'équipe de France, tous sports confondus. Et c'est pas non plus anodin s'il a un palmarès comme le sien. Dans un sport où, inégalé depuis des années, alors avec un certain nombre d'entraîneurs qui se sont succédés, qui ont tous été excellents, et je pourrais citer Daniel Costantini comme je pourrais en citer d'autres, mais voilà, je trouve que j'ai apprécié en particulier mes rencontres avec Claude.
Et puis comme tu le disais, aujourd'hui il est responsable de la performance au niveau des JO de Paris 2024 de l'Agence nationale du sport, et ça reste, même si c'est une entreprise sportive, c'est une entreprise au service du sport avec un budget à gérer, avec des missions à mettre en place. Et il fait très bien le lien entre ce qu'il a pu vivre sur un terrain de handball avec son équipe, ses adjoints, ses athlètes, et aujourd'hui ce qu'il met en place pour les JO de Paris de 2024.
Absolument.
Dans toutes les conférences, je suppose que tes conférenciers donnent des qualités qui leur ont permis de réussir ce qu'ils ont réussi. Est-ce que toi, dans tes conférenciers sportifs, il y a une qualité que tu associes, toi, au sport de haut niveau que tu n'as pas et que tu aimerais avoir aujourd'hui dans ton quotidien de CEO de Simon Edelson?
Je pense à la résilience. Moi, ils m'impressionnent, ces sportifs, par leur capacité à recevoir du feedback tout le temps et surtout. C'est que en fait la remise en question elle est permanente chez eux et en fait elle est même motrice puisqu'elle leur permet d'atteindre une meilleure performance. Et en fait moi de nature je suis pas comme ça, j'ai beaucoup de mal à recevoir des retours. En tout cas au début de ma carrière ça m'a beaucoup gênée parce que je le prenais très personnellement en me disant que finalement si on me faisait ces retours c'est que je faisais mal les choses ou que je les avais pas assez bien anticipées. Et à leur contact, je pense que j'apprends au fur et à mesure à me dire mais en fait, regarde, eux, ils peuvent se prendre des bâches monumentales, des difficultés qui sont 10 fois plus grandes que les tiennes. Et en fait, derrière, ils vont pas du tout être... il va y avoir de la frustration, c'est évident, mais ils vont toujours être à l'écoute de celui ou celle qui va venir leur dire « Regarde, à ce moment-là, peut-être que tu aurais pu réagir comme ça, tu aurais pu faire ça, ça c'était moins bon que ce que tu fais d'habitude. » Et en fait, à chaque fois ils écoutent, à chaque fois ils posent des questions pour vraiment intégrer toutes les dimensions de ce qu'ils auraient pu mieux faire pour être encore meilleurs la fois d'après. Et pourtant, un sacré nombre de fois, c'est vraiment dur ce qu'ils doivent encaisser. Et en fait, ils restent à l'affût en permanence de ce feedback. Et moi, je les admire vraiment pour ça parce que c'est pas dans ma nature. J'apprends. On va dire que j'ai un peu appris déjà sur le sujet, mais il reste encore des maîtres pour moi. Et à chaque fois que je les entends, à chaque fois que je les vois, je me dis, allez, prends-en un tout petit peu, Clémence, parce que ça te sera utile dans ton quotidien. Moi, mes difficultés, mes échecs sont certainement moins importants. Et encore, je ne sais pas si on peut les graduer, mais dans tous les cas, j'ai des feedbacks à recevoir et j'ai des choses à apprendre pour être meilleure sur ce que j'ai moins bien réussi. Et ça m'inspire d'être à leur contact pour voir comment eux, ils réagissent à ça, justement.
Donc, tu vas continuer à avoir des sportifs chez Simon et Nelson.
Oui, ça c'est impossible d'arrêter ou d'envisager d'arrêter de travailler avec eux. Ils sont une source d'inspiration. Enfin, si on en revient à l'essence de notre ADN et au nom que j'ai choisi de donner à cette agence, on recherche toujours des profils inspirants et je ne peux pas imaginer que les sportifs ne soient plus inspirants ou plus une source d'inspiration pour nos clients. Ça c'est inimaginable pour moi.
Tu parlais des thèmes qui sont aujourd'hui le plus mis en avant, la RSE, l'IA. Est-ce que à l'approche des JO de Paris 2024, tu sens qu'il y a une demande un peu plus forte chez toi pour avoir des conférenciers sportifs, pour faire le lien avec l'actualité qui va arriver dans quelques mois?
Je dirais pas qu'il y a une explosion des demandes sur le sujet. On reste sur une tendance qui est tout à fait classique. Peut-être qu'on a 10-20% de plus de demandes autour des sportifs. En revanche, nous demander Tony Estanguet en plein mois de juillet, c'est impossible. Et on l'explique évidemment avec beaucoup de bienveillance à nos clients qui ne se rendent pas tous compte des emplois du temps que peuvent avoir les sportifs et les organisateurs à cette période. Mais à vrai dire, c'est pas si majeur parce qu'en fait, on a déjà l'habitude d'en faire intervenir beaucoup. Et donc, en tout cas, moi, je note pas une grosse croissance des demandes autour des sportifs, pas autour des JO. Et je fais un peu le parallèle aussi avec la Coupe du Monde de rugby de l'année dernière parce que finalement, la tendance a été la même chez nous, en tout cas, je dis. C'est peut-être pas la tendance du marché, mais en tout cas chez Simon et Nelson, de la même manière, on a dû faire intervenir, allez, 20% de rugbyman en plus que ce qu'on avait fait l'année précédente, ce qui est tout de même une croissance, mais c'est pas, enfin, on n'a pas doublé le nombre d'interventions de rugbyman sur l'année du fait de cette actualité sportive en France. Donc la tendance est à peu près la même sur la période. Et d'autant plus que juillet-août, qui est donc la période des JO, et quand même une période très calme sur le domaine de la conférence, puisque les événements qu'organisent nos clients ont lieu sur le calendrier d'entreprise. Et donc juillet-août, c'est quand même une période qui est plutôt calme. Et donc en général, il y a peu d'événements organisés à ce moment-là. Attention, ça ne veut pas dire qu'ils ne pourraient pas inviter un sportif au mois de juin ou au mois de septembre pour leur séminaire avant l'été ou de rentrée. Mais en tout cas, sur la période phare des JO, il y aura peu d'interventions dans le monde des entreprises avec des sportifs. Enfin, pour moi, ça reste à la marge.
Et est-ce que un sportif français qui, au prochain JO, fait des résultats exceptionnels, je pense spontanément à un Léon Marchand qui était triple champion du monde de natation. Je ne sais pas si aujourd'hui les conférenciers, imaginons qu'ils fassent pareil l'année prochaine au JO d'été, cet été. Est-ce que globalement, même s'il a jamais fait de conférence, c'est un profil qui peut vous intéresser? Vous êtes amené chez Simon et Nelson à l'aider à faire sa conférence et à se mettre en musique pour raconter ben, ce qu'il a pu ressentir. C'est pas forcément inné, hein, de raconter son parcours. Vous avez aussi cette forme d'accompagnement, chez vous?
Alors, c'est une très bonne question parce que effectivement, un très bon sportif ne fait pas forcément un très bon conférencier. Et quelqu'un qui a été très performant, qui a décroché un certain nombre de médailles, va pas forcément savoir expliquer le cheminement par lequel il est passé. Il l'aura vécu, il aura été très bon dans sa réussite, mais pour autant mettre des mots dessus, le verbaliser, le conceptualiser, c'est très difficile. Aujourd'hui, nous, on propose pas pour le moment cet accompagnement aux conférenciers. En revanche, si on fait référence à Léon ou à d'autres d'ailleurs, ce qu'on propose en général, c'est dans un premier temps un format grand entretien. Donc, c'est-à-dire que plutôt que de laisser le conférencier seul en scène pendant 1 heure à devoir faire un discours qui demande d'avoir développé au préalable des capacités oratoires et d'avoir réfléchi à son parcours pour en sortir des thèmes vraiment très identifiés et être capable de les expliquer. Le format grand entretien ressemble en fait à une interview, comme celle auxquelles ils auraient pu répondre pour des journalistes. Et donc, ils sont plus habitués à ce format, ils sont plus à l'aise aussi pour y répondre, ça a un côté plus spontané, et ça apporte tout de même des éléments de réponse qui intéressent les clients. Donc, en fait, pour les profils qui commencent la conférence, ou ceux qui sont pas à l'aise avec le format discours, et c'est complètement OK, tout le monde n'est pas fait pour faire des discours qui durent 1 heure. Eh bien, en fait, on recommande vraiment ce format interview, nous on l'appelle grand entretien, qui permet un échange naturel avec le conférencier en herbe ou averti, mais en tout cas ceux qui préfèrent ce format.
Bien, on suivra ça avec grand intérêt. C'est quoi les projets là, de Simone et Nelson dans les semaines, dans les mois qui viennent? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais développer, dont tu peux nous parler?
L'activité est dense et intense. Plusieurs choses, on vient de déménager, donc c'est déjà un chantier en tant que tel, mais voilà, on va dire que celui-ci, il est quasiment derrière nous. Évidemment, on continue le développement du sujet de la conférence. On reste très, très à l'écoute du marché, aussi bien sur les tendances des thèmes, sur les tendances des intervenants. On regarde aussi ce qui se fait à l'étranger, parce que c'est toujours inspirant. Les marchés anglo-saxons, par exemple, sont très matures sur la thématique de la conférence. Il y a beaucoup moins de tabous autour du métier de conférencier, aux US ou en Angleterre que ça ne l'est en France. Et typiquement, tous les anciens présidents américains, quand ils terminent leur mandat, rejoignent ce qu'on appelle un speaker's bureau, donc une agence de conférenciers, pour derrière faire de la conférence, parce que c'est indéniable qu'ils ont une expérience extraordinaire à partager. En revanche, en France, quand Nicolas Sarkozy ou François Hollande fait une conférence, la première chose qu'on voit dans les médias, c'est combien a-t-il pris pour réaliser son ménage. Et je trouve ça assez terrible de réduire en fait les expériences qu'ils ont pu vivre, indépendamment du bord politique, en mettant vraiment ce sujet de côté. Ils ont tous traversé ils ont géré l'État français au plus haut niveau pendant un ou deux mandats, et donc ils ont forcément des choses à nous apprendre de cette expérience qu'ils ont pu vivre. Donc voilà, je regarde aussi toujours ce qui peut se faire un petit peu ailleurs, parce que ça m'inspire, ça peut me donner des idées. Et puis il y a une autre dimension, moi, sur laquelle j'aime beaucoup travailler, c'est la dimension d'égérie, puisque j'accompagne aussi des clients dans la recherche des célébrités les plus affinitaires avec leur marque pour incarner leur campagne de publicité. J'ai pu travailler sur des campagnes nationales, donc plutôt françaises, hein, parce que ça demande vraiment plutôt une expertise locale à mon sens, et locale j'entends au sens du territoire, mais par exemple, ça n'a rien à voir avec le sport, mais je travaille avec Élodie Gossuin, qui est ancienne Miss France et égérie de la marque textile de Leclerc, qui s'appelle Tissaya, et je fais cette activité ça peut être avec des sportifs comme avec d'autres personnalités, mais je le fais vraiment du point de vue de la marque, pour aller chercher le profil le plus affinitaire en termes de cible. Est-ce qu'ils ont tous les deux la même cible, et la célébrité et la marque? Est-ce qu'ils ont les mêmes valeurs? Ou dans le cadre d'un repositionnement, est-ce qu'ils ont les mêmes futures valeurs pour aider à réaliser ce transfert de valeurs entre la célébrité et la marque? Et est-ce qu'ils font des campagnes de ce type, etc. Donc c'est un autre accompagnement qu'on propose aux marques et qu'on est actuellement en train de développer.
Eh bien, écoute, on pourra suivre ça, puisque comme d'habitude, je mettrai bien sûr tous les liens pour te contacter l'agence, si jamais ça donne des idées à certains qui auront écouté ce podcast. Merci beaucoup, Clémence, pour cette découverte. Moi aussi, j'ai levé le voile un petit peu sur ce qu'était une agence de conférenciers, un peu comme les sportifs peuvent le faire quand ils sont sur scène par le biais de Simone et Nelson. Donc, merci pour cet échange.
Merci à toi, c'était super, j'ai passé un très bon moment.
Et puis, bien sûr, à tous les auditeurs, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de L'Entrepreneuriat, c'est du sport.